Nous poursuivons nos chroniques avec le CCFD Terre Solidaire en route vers l'agroécologie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Luc Ducerme. Bonjour Luc.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Luc, vous avez un camping, vous êtes l'heureux propriétaire d'un camping du Pibest à Gosvidalos. Gosvidalos, pour faire simple pour les gens qui nous écouteraient un petit peu loin, c'est entre Lourdes et Argelès-Gazost.
Tout à fait.
Voilà, c'est entre les deux. On va parler de votre parcours, puisque vous avez repris ce camping. Comment vous pouvez l'appeler? Comment vous pouvez le dénommer aujourd'hui, ce camping?
Alors, en 2017, on a arrêté d'accueillir des tentes et des caravanes.
Oui, ça aussi, c'est une révolution, peut-être.
Voilà, c'est une révolution. Et avec mon frère, on a rebaptisé un petit peu notre établissement. Avec ce que l'on est depuis tout le temps, ce n'est pas du greenwashing. On l'a rebaptisé Camping Éco-Village Vacances Soleil du Pibest.
Soleil du Pibest. Et on va voir que ce mot Pibest va revenir régulièrement, je pense, dans nos discussions, parce que je crois que vous êtes vraiment amoureux de ce Pibest. Et ce Pibest qui est quoi, une petite montagne, une colline.
Un trésor.
Un trésor.
De la biodiversité. D'abord, même si on fait rien que 100 mètres dans la réserve naturelle Pibest à Houillette, eh bien, on se rend compte de cette richesse en biodiversité, quoi. Le sommet est à 1400 mètres, hein, voilà. Mm-hmm. Donc, on est sur un kilomètre vertical, on appelle ça, de 1000 mètres. Voilà, donc, il y en a à la fois pour les sportifs, à la fois pour les familles, il y en a pour tous les goûts, quoi.
Hein. Ouais. C'est une vraie aire de jeu, hein.
Oui, oui.
Une vraie aire de jeu. Mais plus que ça, on va le découvrir tout au long de nos émissions. Alors, c'est vrai que ces trois petits monts, là, Béhout, Pic du Gers et Pibest, ils se côtoient, on les voit. Et c'est vrai que le Pibest est le plus haut. Il y avait un téléphérique à l'époque. Hein.
Oui.
Ouais, qui n'existe malheureusement plus. Alors, malheureusement ou heureusement?
Moi, personnellement.
Vous préférez qu'on le monte à pied, hein?
Ouais, j'ai plus une fibre de montagnard, quoi.
Ouais.
Voilà, quoi. C'est après, ça fait appel à une industrie, voilà, une industrie touristique. Et je pense que c'est un peu fini, quoi, ce temps-là, quoi.
Ah, on monte à pied.
Voilà.
Sinon, on n'y va pas.
Oui, mais effectivement, je pourrais aller à l'Everest, mais je n'ai pas la condition physique, et bien j'y vais pas.
Mmh.
Voilà.
Alors, comme toute aventure, on va débuter par le commencement. Luc Ducerme, vous avez 49 ans, vous avez fait vos études au lycée agricole Beaulieu, c'est dans le Gers. Et sur la petite fiche que l'on m'a préparée, vous avez fait un stage, hein, bien sûr, sûrement obligatoire dans votre cursus scolaire. Et vous êtes parti à la capitale, à Paris, pour faire votre stage chez... On le voit, hein, souvent dans les boulangeries du coin, on voit ces sacs de farine où il y a marqué France Farine. Et là, vous me dites que vous avez vu les limites éthiques des structures industrielles et vous dites même que vous parlez de triche. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers ce stage qui vous a horripilé particulièrement sur France Farine?
Il y a eu des côtés positifs, comme dans toute expérience, mais il y a eu aussi la réalité de l'industrie agroalimentaire qui, dans le laboratoire, j'étais chargé de contrôler la qualité des farines qui venaient du sud, du nord, ça venait un peu de partout, et il fallait uniformiser. Donc, il fallait avoir des mélanges de farines pour arriver à une farine identique qui serait achetée dans le sud comme dans le nord du pays, quoi. Donc effectivement, ça fait l'uniformité, il y a des limites éthiques et voilà quoi. Mais ça se retrouve aussi dans le tourisme. Hein. Les grandes chaînes veulent mettre en place les mêmes chambres, les mêmes mobil-homes, les mêmes chalets du sud ou du nord de la France. Tous les métiers sont touchés par ce désir d'uniformité, quoi.
On ne prend pas en considération l'endroit où on est, c'est ce que vous dites, hein.
Voilà, et avec toutes ces richesses, quoi. Voilà, la richesse d'un blé fait, qui a poussé avec le patrimoine génital, le patrimoine de la terre, quoi, la terre, eh bien, il n'est pas valorisé, alors que c'est ça la nature, quoi. C'est,
voilà. Oui, c'est quelque chose qui vous porte, la nature. On va le découvrir. Alors, En 1989, vous reprenez le projet familial sur un terrain et vous créez un camping qui s'appelle Camping Soleil du Pibeste, donc à Gosvidalos, et vous le reprenez tout seul ou avec votre frère ?
On est toute une famille en 89, oui. Et voilà, mes parents, mon oncle, ma tante, mes frères, mes deux frères, et voilà quoi. Donc,
Il n'existait pas ?
Il n'existait pas, on
d'accord.
l'a créé.
C'était un terrain agricole ?
C'était, il y avait les vaches de la ferme familiale. Voilà.
Et pourquoi un camping ?
Mais je pense que c'est aussi un lieu où toutes les couches sociales peuvent se retrouver.
Et c'est vrai ça vous plaisait.
Ça me plaît de pouvoir côtoyer à la fois toutes. Il y a une richesse de rencontres qui est extraordinaire. On rencontre des familles issues de plusieurs lieux géographiques, mais aussi de plusieurs niveaux sociaux, quoi. Et tout le monde se côtoie, là, ça donne une richesse extraordinaire.
Et le fait d'enlever les tentes, là, vous ne réduisez pas le niveau, la fracture sociale ?
Alors, c'est une évolution. Quand on a enlevé les tentes et les caravanes, on a, c'était parce qu'on devait refaire les sanitaires. Et notre chiffre d'affaires en tente et caravane était inférieur par rapport à l'investissement possible. Donc notre comptable nous a freinés. Voilà. La dimension sociale, on l'a toujours. C'est-à-dire que on reçoit des personnes qui payent moins cher parce qu'ils ont des soucis financiers, mais ils ont besoin de vacances aussi. On a reçu dernièrement des personnes qui étaient en instance de divorce et c'était le confinement. Eh bien, on les a acceptés alors que normalement, on avait des règles à respecter. Mais ça, c'est notre effort social aussi, quoi. Mmh. On a le label Tourisme Handicap depuis 2010. Et donc là, on a fait un effort social pour accueillir, et on investit plus de 200 000 euros dans cette histoire en 2010, pour accueillir, pour favoriser les vacances pour tous, quoi. Voilà. Donc, par exemple, un mobil-home pour deux personnes actuellement, c'est 36 euros. Donc, voilà. Donc, pour 36 euros, ils peuvent passer une nuit. Donc, effectivement, c'est un tout petit peu plus cher que la tente, mais ça reste quand même accessible.
Oui. Et on est quand même dans un confort inégalé par rapport à une tente.
Voilà.
Aussi.
Voilà.
Alors, on va bien sûr partir à la découverte de ce camping et de toutes les évolutions, hein, puisque au départ, un terrain agricole qui devient camping, et puis aujourd'hui, on voit toutes les évolutions que vous avez faites, et vous pouvez être fier de votre travail. Mais avant cela, on va aussi parler de votre activité, puisque vous avez été créateur et président du club de roller à Lourdes.
Effectivement. La glisse m'a toujours passionné et c'était une expérience humaine, une aventure humaine extraordinaire.
Et vous avez d'accord accompagné des activités menées par Andy Bike, hein ?
Effectivement, on a rencontré Jean-Paul Cournet et c'est vrai que sur les compétitions, on était, par exemple, le semi-marathon Lourdes-Tarbes. Jean-Paul Cournet, avec les Andy Bike, ils ont organisé un contre-la-montre le samedi. Donc, Lourdes Roller faisait la sécurité pour les Andy Bike. On rencontrait ces compétiteurs hors normes et le dimanche, on faisait le semi-marathon ensemble, puisqu'on se croise pendant toute la compétition. Quoi.
Vous en gardez un bon souvenir.
Oui, et c'est Jean-Paul Cournet, après, qui m'a fait évoluer aussi, qui m'a fait travailler l'évolution de notre structure pour avoir le label Tourisme Handicap.
Alors, vous avez aussi été président de deux structures, alors deux méga structures qu'on connaît ici, et vous allez nous dire que malgré qu'elles sont méga structures, elles sont pas trop connues, on est nul les prophètes dans son pays, on dit. C'est celui de Natura 2000.
Oui.
Et celui, donc, et là, vous étiez président à titre de conseiller municipal à Gosvidalos, puisque vous avez été élu aussi à Gosvidalos, et puis président de la réserve naturelle du Pibeste à Houillette.
Effectivement, je me suis mis au service de la population, et donc en tant que conseiller municipal, j'étais à la fois président de Natura 2000 et de la réserve naturelle Pibeste à Houillette.
Voilà. Et on va partir aussi à la découverte de ces deux casquettes qui n'a pas été simple. Parce que dès votre arrivée, vous avez dû mettre des choses en place, des règles qui n'étaient pas forcément là. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que même financièrement, ça a été compliqué.
Oui, je pense que la richesse patrimoniale de la réserve est là et on est tous en admiration devant cette richesse de la biodiversité. Mais effectivement, les budgets à l'époque étaient très faibles et c'était porté par des villages. De 400 habitants comme à Gauze-Vidalos et jusqu'à Saint-Pé, mais maintenant c'est porté par des communautés de communes et par la région. Donc on était réserve naturelle volontaire et j'étais juste à la jonction, notre équipe était à la jonction entre la réserve naturelle volontaire et l'État qui s'est défaussé de ses compétences et qui les a données à la région sans donner d'argent non plus à la région, quoi. D'où la région qui a un petit peu tardé. Donc voilà, mais j'étais au service à ce moment-là.
Elle a changé de structure, hein. Elle s'appelait comment et elle est devenue quoi ?
Réserve naturelle volontaire du Pibest.
Oui.
Elle est passée réserve naturelle régionale Pibest à Houillette. Yeah.
D'accord.
Et ça, j'ai vécu un grand moment sur le changement de nom, puisque on a dû rencontrer tous les conseils municipaux de la réserve et il y a eu une volonté des élus de modifier le nom.
Et de rajouter Houillette.
À Houillette.
Alors, pour nos auditeurs, à Houillette, c'est quoi ?
Mais à Houillette, c'est le nom d'une forêt domaniale du nord de la réserve, côté Saint-Pé. Et puis, c'est aussi, ça veut dire dans notre langue occitane, berger. Et donc, c'est placer l'homme au centre de cette protection de la nature et les activités humaines, celles des paysans, au premier chef, puisque c'est berger que ça, la signification d'Aouillette.
Vous me disiez que lorsqu'on est dans une réserve, le plus important d'abord, c'est l'homme et pas forcément la fleur. Expliquez-moi un peu ce que vous voulez dire par là.
Oui, c'est
parce que des fois, pour des gens qui ne s'y connaissent pas, on inverse. C'est-à-dire que la nature est maître, l'homme est accepté. Vous, vous dites, c'est l'homme d'abord.
Oui, je pense que c'est un projet humain avant tout. Mettre la nature sous cloche, c'était un peu l'image que les personnes qui... Et protéger quatre fleurs, comme on dit, quoi. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Dans Natura 2000, on essaye d'avoir des milieux ouverts. Et ces milieux ouverts, ils sont travaillés par les paysans, au premier chef. Une des premières actions de la réserve naturelle du Pibest, la réserve naturelle volontaire, c'était, on a vu qu'il y avait un manque d'eau petit à petit, donc on a capté l'eau côté nord et on l'a mis côté sud. Ça a permis de garder un pastoralisme dans les zones sèches et donc de garder des milieux ouverts. Autrement, ça serait recouvert par la forêt et on aurait perdu de cette biodiversité qui nous est chère, quoi.
Mmh. Parce que lorsqu'on parle de réserve, on se dit que le premier prédateur de la nature, c'est l'homme. Parce que si on fait des réserves, c'est parce que c'est l'homme qui petit à petit grignote, qui la déforestation, c'est l'homme. Et donc du coup, pour les gens qui ne connaissent pas, la réserve, c'est plutôt on exclut l'homme afin qu'il ne puisse pas venir perturber cet écosystème. Et là, vous nous dites non, mais attention, l'homme est important.
Mais toutes les activités humaines dans la réserve, que ce soit les chasseurs qui ont une connaissance du milieu extraordinaire et qui sont acteurs, à la fois les pratiquants de l'escalade, du VTT, de la randonnée et tout ce qui est association, on va dire, écologiste, eh bien, ils sont partie prenante dans ce projet humain. En plus que les paysans, quoi. Donc, et c'est ça qui fait l'âme de la réserve. C'est ça qui fait la richesse de la réserve, quoi.
Et vous disiez que cette réserve, à la fois, vous disiez qu'on avait la chance d'avoir ce site Natura 2000 et cette tourbière à côté du lac de Lourdes et le Pibest et vous me disiez, mais c'est la deuxième, je crois.
Non, c'est la plus grande.
La plus grande.
Réserve naturelle régionale de France continentale après les dom-toms, au col de l'Ourdes, voilà. Et la richesse d'une zone humide qui touche Lourdes, mais c'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est
mais comment la faire connaître? Parce que, vous voyez, vous venez en parler au micro, vous êtes un connaisseur, vous en parlez, quand vous en parlez, vous avez les yeux qui pétillent. Mais comment on peut le faire découvrir, ça?
Mais c'est justement ces hommes-là qui sont acteurs de la biodiversité dans le territoire. Et moi, je le vois dans mon établissement touristique. Ce que viennent chercher les touristes, ce n'est pas uniquement des paysages de cartes postales. Ce qu'ils viennent chercher, c'est des histoires humaines. Par exemple, nous, dans notre établissement, on est passé en 32 ans des activités de pleine nature, comme le rafting, comme le parapente, des choses un petit peu à sensation, on est passé à des expériences humaines. Et nous, dans notre établissement, on propose de rencontrer des habitants du village, par exemple. On propose des rencontres humaines pour rencontrer des histoires de vie, quoi. Effectivement, par exemple, Christian Régeval, qui est ancien garde du parc, eh bien, il habite Batsurguère. Eh bien, il a tout plein d'histoires à raconter aux touristes, par exemple, quoi. Et bien, rencontrer un paysan, eh bien, je pense, par exemple, à la ferme des Trois Corneilles à Vigières, eh bien, effectivement, c'est eux qui façonnent le pivinste. Avec leurs chèvres, ils ont une histoire familiale extraordinaire, un projet de vie extraordinaire et une valorisation du Pivest qui est vraiment à faire connaître. Et moi, je pense que les expériences humaines, c'est ça qu'il faut valoriser. Voilà.
On en parle avec vous, Luc Ducerme, la semaine prochaine, parce que le temps file et on va partir un peu, donc, aussi à la découverte de cette aventure de ce camping où l'homme est très important. On en parle avec vous dès la semaine prochaine.
D'accord, à bientôt.